Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Maïder Gérard, Marguerite Caton, Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Pierre Fossillon. Troisième temps de notre série consacrée à l'espace, après avoir parlé lundi du retour de la Lune dans les politiques spatiales, après avoir évoqué hier la montée en puissance des acteurs privés, on va se demander comment réguler les activités qui se déroulent précisément dans l'espace, les activités commerciales mais aussi militaires. Qui fait la loi dans l'univers? C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Mission Shakti ki pehla video ab aapko dikhate hain aaj Bharat mein.
Aujourd'hui, le 27 mars 2019, l'Inde a accompli un exploit sans précédent. L'Inde a inscrit son nom en tant que puissance spatiale de premier ordre. Jusqu'alors, seulement trois pays au monde, les États-Unis, la Russie et la Chine, avaient connu ce succès. Il y a peu, nos scientifiques ont abattu un satellite en orbite basse à une distance de 300 km. Cette opération a été réussie en l'espace de seulement 3 minutes.
Voici ce que nous savons depuis l'envoi par l'Inde d'un missile anti-satellite. Nous avons identifié 400 débris orbitaux provenant de cet événement. C'est une chose effroyable que de réaliser cet événement qui a envoyé des débris dans la zone de l'apogée de la Station spatiale internationale. Et ce genre d'activité n'est pas compatible avec les vols habités dans le futur.
Le 27 mars dernier, le gouvernement indien annonçait la destruction de l'un de ses satellites. L'événement a fait la fierté du gouvernement de Narendra Modi qui s'est vanté d'appartenir désormais au club très restreint des nations capables d'une telle opération après les États-Unis, la Chine et la Russie. Pour les autres puissances spatiales, l'essai indien est source d'inquiétude. En effet, la destruction du satellite a provoqué des centaines de débris dont certains pourraient même menacer la Station spatiale internationale, comme le regrettait l'administrateur de la NASA qu'on entendait. Nous vivons tous dans l'espace, n'y mettons pas le bazar, a même lancé en réaction Patrick Shanahan, le secrétaire américain à la Défense. Alors, l'espace serait-il une sorte de zone de non-droit où il serait permis de faire tout et n'importe quoi? De fait, les grands traités internationaux consacrent les principes de l'usage pacifique et de la non-appropriation, mais le droit spatial rédigé et adopté dans les années 60 est-il encore adapté à l'environnement actuel? Quel garde-fou face à la militarisation croissante de l'espace? Quelle régulation des activités humaines dans un moment où les acteurs privés se multiplient et où la commercialisation de l'espace et de ses ressources pointe à l'horizon? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord Mireille Couston, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeure de droit international public à l'Université Lyon 3 et directrice du Centre du droit des espaces et des frontières, auteure de plusieurs ouvrages, notamment « Droit spatial » qui était paru chez Ellipse, mais aussi « Droit de la sécurité internationale » qui était paru chez Larcier. À vos côtés, Paul Vorer, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes vous chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, la FRS. Alors, Mireille Couston, on va commencer avec vous. Je l'évoquais le mois dernier, le Premier ministre indien qui annonce que son pays a donc réalisé une destruction de satellites par missile. C'est la première de son histoire. L'Inde a gravé son nom parmi les puissances spatiales, a déclaré fièrement Narendra Modi. Que vous inspire cet événement? Et est-ce qu'il faut comprendre que, d'une certaine manière, on est en train de vivre là une forme de militarisation de l'espace, Mireille Couston?
Alors,
Couston, pardon.
Je vous en prie. D'abord, un petit propos liminaire, si vous le permettez. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité à cette émission et je me félicite de voir qu'une radio telle que la vôtre se saisisse du sujet des applications spatiales. Les applications spatiales sont très prégnantes aujourd'hui dans nos vies de tous les jours. Mais pour autant, c'est vrai que le cadre et la régulation de ces activités est assez méconnu et resté discret. Donc je suis assez heureuse de cette émission d'aujourd'hui, puisque peut-être, et j'espère que certains points vont être éclaircis sur ces aspects-là, et aussi aplanir une certaine théâtralisation sur ces questions et par rapport à des grands principes. Et d'ailleurs, vous venez d'en parler vous-même, vous parlez du principe de non-appropriation, et je m'excuse, mais je dois corriger, il ne s'agit pas du principe de non-appropriation, mais du principe de non-appropriation nationale, ce qui est très différent.
Ce qui fait une différence très importante.
Ce qui fait une très grande différence. Alors, ce propos liminaire, par rapport à votre question sur la militarisation, je crois qu'il faut être très, très clair là-dessus. Il y a deux phénomènes dans l'espace aujourd'hui pour les aspects stratégiques. On a un phénomène de militarisation, mais qui est un phénomène qui existe depuis le début de la conquête spatiale, puisque les toutes premières activités étaient militaires. Et donc, on est dans une militarisation de l'espace qui est reconnue par tout le monde, qui est acceptée par tout le monde. La militarisation de l'espace est une militarisation qu'on peut qualifier de passive. Par rapport à un deuxième phénomène beaucoup plus récent qui est l'arsenalisation, et je pense que c'est de cela peut-être dont vous voulez parler, c'est l'arsenalisation, c'est-à-dire la mise en place d'armes dans l'espace extra-atmosphérique. Donc on a deux phénomènes vraiment très différents, militarisation où le secteur militaire utilise des satellites de télécommunication, d'observation, mais sans qu'il y ait un aspect agressif dans cette utilisation. Et puis l'arsenalisation, qui est un autre phénomène et une autre tendance, qui et vous mentionnez évidemment l'affaire du satellite indien, qui consisterait à faire de l'espace un théâtre d'opérations militaires, ce qui est très différent. Donc deux notions à bien distinguer tout de même.
Vous avez raison de faire cette distinction. Paul Verrer, si on regarde sur le volet politique et que l'on s'intéresse aux réactions à cette destruction par l'Inde de son propre satellite, on parlait juste avant de commencer l'émission, Mireille Couston disait les réactions étaient très fortes. Moi, il m'avait semblé, mais peut-être que je me trompe, que précisément elles n'avaient pas été si forte que ça, en tout cas beaucoup moins forte que lorsque la Chine, il y a un peu plus de 10 ans, il y a 12 ans maintenant, en 2007, avait, elle, procédé à la destruction d'un de ses satellites. Comment est-ce que vous percevez justement les réactions qu'il y a eu suite à cette destruction, Paul Verrer ?
Effectivement, les réactions n'ont pas été les mêmes, mais c'est également parce que le test n'a pas été effectué selon les mêmes modalités. Ce qui avait fait réagir énormément en 2007, c'était la création d'un grand nombre de débris lorsque les Chinois avaient détruit leurs satellites, et notamment des débris à une altitude très élevée, puisqu'ils avaient effectué leurs tests à 800 km à peu près, alors que l'Inde a détruit son satellite à 300 km.
Et c'est moins problématique pour les activités spatiales.
C'est moins problématique à long terme, disons, parce que les débris ont une certaine durée de vie dans l'espace, et plus ils sont bas et proches de la Terre, plus l'atmosphère va les freiner et les faire retomber rapidement. Alors, quand on a une explosion dans l'espace, un certain nombre de débris vont être projetés à des altitudes très élevées, et ça a été le cas pour le test indien, puisque certains débris ont été relevés au-delà de l'altitude de 800 km. Et on estime généralement qu'au-delà de 700 km d'altitude, des débris spatiaux vont mettre plus de 25 ans à retomber sur la Terre.
Et c'est un vrai problème, parce qu'un débris spatial, si un tout petit débris, même un tout petit débris rencontre par exemple un satellite, ça fait des dégâts considérables.
Exactement. Les débris spatiaux, leur taille et leur poids, d'une certaine façon, n'ont pas tant d'importance que ça. Ce qui importe, c'est leur vitesse. Et la vitesse orbitale minimum, c'est 28 000 km/h. Donc quand deux objets se rencontrent à 28 000 km/h, même s'ils ne font que quelques grammes, ils sont capables de créer des dégâts absolument considérables.
Mireille Couston, et ça va nous permettre de glisser vers des questions purement de droit. Faisons l'hypothèse précisément qu'un des débris de ce satellite indien vienne percuter effectivement un autre satellite, ou même pourquoi pas la Station Spatiale Internationale. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Delhi peut être reconnu comme responsable, et donc l'Inde peut-elle se retrouver au fond contrainte de rendre des comptes, éventuellement indemniser les pays ou les sociétés concernées ? Que dit le droit ?
Eh bien, les traités spatiaux qui ont été rédigés par les États dans les années 60, vous les avez indiqués, prévoient une responsabilité, en effet, des États pour leurs activités spatiales. Mais néanmoins, cette responsabilité, elle est différente en fonction du lieu du dommage, du lieu où a été causé le dommage. Lorsque on envisageait à l'époque, et c'était la crainte au moment de la négociation de la Convention sur la responsabilité en 1972, lorsqu'on envisageait une activité spatiale qui produirait des dommages à terre, un satellite qui retombe sur une ville, donc, face à ce risque majeur, il a été décidé d'instaurer ce qu'on appelle une responsabilité absolue et objective pour les États. Autrement dit, inutile de prouver une faute. À partir du moment où un objet crée des dommages à terre, un objet spatial crée des dommages à terre ou en l'air, c'est-à-dire éventuellement rencontre un aéronef qui est en vol, un avion qui est en vol, là, l'État qui est l'État de lancement est absolument et complètement responsable et donc il doit indemniser de manière absolue et complète les victimes. En revanche, et là, et c'est, on est dans le cas du satellite indien, en revanche, quand le dommage est réalisé dans l'espace extra-atmosphérique, en orbite, la responsabilité n'est plus une responsabilité absolue et complète, c'est une responsabilité pour faute. Donc, il va falloir prouver une faute. Pour prouver la faute, il va falloir identifier, n'est-ce pas,
et c'est clair, c'est la source, se complique.
La source du dommage. Et là, ça devient très compliqué, parce que, vous le signalez, il y a finalement beaucoup de débris dans les orbites, qui y sont depuis des années, puisque depuis les années 50, on lance des satellites, et bien il y a des vieux satellites, il y a toutes sortes de morceaux de vieux satellites, pas uniquement ceux qu'on a détruits volontairement, mais tous les autres. Et par conséquent, les débris pouvant être petits, vous l'avez signalé, il suffit d'un petit débris, une écaille de peinture même, simplement, cela suffit. Comment faire pour identifier, n'est-ce pas, ce débris qui aura été à la source du dommage?
Paul Vorer, est-ce qu'il faut s'attendre à une escalade et est-ce que ça pourrait donner des idées à d'autres pays? On le disait, pour l'instant, quatre puissances ont réalisé ce genre d'opération, les États-Unis, la Russie, la Chine et maintenant l'Inde. Est-ce que d'autres pays pourraient être tentés?
Oui, c'est généralement assez tentant parce que l'espace est aussi un vecteur de puissance et de une manifestation que son pays est un grand pays. C'est le cas pour les grandes manifestations politiques telles que l'envoi d'humains dans l'espace, qui est fait uniquement pour des raisons politiques.
Quel candidat pour ce genre d'opération? Parce que techniquement, c'est quand même compliqué.
Techniquement, c'est assez compliqué. La plupart des pays qui ont des systèmes qu'on appelle anti-balistiques, c'est-à-dire qui sont capables d'intercepter en théorie des missiles, par exemple nucléaires, arrivant sur un territoire, ces systèmes anti-balistiques pourraient être utilisés pour détruire des satellites. Parce que intercepter un missile balistique, c'est très compliqué, ça demande une préparation extrêmement rapide, alors que intercepter un satellite, si on est capable de déterminer son orbite, on peut généralement prévoir où il se trouvera à un instant donné.
Qui peut le faire aujourd'hui ?
Ceux qui en sont capables techniquement, c'est les États-Unis, la Chine.
Il y a ceux qui l'ont fait, très bien.
Ceux qui l'ont fait, en théorie, la France devrait être capable d'accomplir une telle démonstration également.
Mireille Coustan.
En théorie, pour l'instant, elle ne l'a pas fait. Techniquement, elle a les moyens, naturellement, de le faire. Je voudrais peut-être apporter une petite nuance par rapport à l'idée que la démonstration est uniquement politique et diplomatique. C'est vrai qu'il y a un message politique et diplomatique qui est lancé par l'Inde, comme il avait été par la Chine en 2007. On veut démontrer quelque chose, une certaine capacité. Mais au-delà du message politique et diplomatique, il y a une réelle effectivité dans cette future peut-être guerre de l'espace où on va peut-être avoir besoin en effet pour les pays. Et c'est le souci, on voit bien aux États-Unis, il y a une nouvelle doctrine qui est en train d'émerger là-dessus, où il faut absolument, en effet, se protéger de certains objets et éventuellement mener, on parlait de l'arsenalisation, tout à l'heure je vous parlais de l'arsenalisation, où on va peut-être mener les conflits internationaux, on va les projeter aussi dans l'espace extra-atmosphérique. Enfin, nuançons. Non pas l'espace extra-atmosphérique, mais les orbites terrestres, ce qui est là aussi est un peu différent.
On va en parler tout à l'heure, parce qu'effectivement, Donald Trump lance une Space Force, on y reviendra tout à l'heure. Mais d'abord, faisons un tout petit peu d'histoire du droit, Mireille Couston. Quand on parle du droit de l'espace, on fait référence à l'ensemble des règles internationales qui régissent l'espace et les activités spatiales, ce qui est effectivement très très large, sous ce nom assez générique, on retrouve du droit des activités spatiales, du droit des stations orbitales, du droit des activités météorologiques satellitaires, de l'activité de navigation, tout un tas de choses. Donc ce qu'on voit tout de suite, et vous le dites très bien dans votre livre, c'est que en fait le droit spatial, il évolue en même temps que les technologies tout simplement. Reprenons les choses dès le départ, 1957, l'URSS envoie son premier satellite, le Spoutnik. Et puis quelques mois plus tard, on va créer au sein des Nations Unies un comité, comité pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique. Et puis, 63, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte une résolution qui consacre un certain nombre de principes fondamentaux liés justement à l'activité dans cet espace extra-atmosphérique. Qu'est-ce qu'on définit, qu'est-ce qu'on établit à ce moment-là?
Alors,
c'est la base, c'est le départ.
C'est le point de départ. Alors cette résolution de 63 que vous mentionnez, c'était un peu, ça a été le brouillon, si je puis dire, du traité de 1967 qui est venu par la suite. C'était une sorte de pré-négociation entre les États pour savoir si, dans un cadre finalement qui était un cadre seulement recommandatoire, parce qu'il ne faut pas oublier que les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies ne sont que recommandatoires, elles n'ont absolument pas de valeur juridique obligatoire, mais c'était un test, c'était un galop d'essai entre les États. Et compte tenu qu'ils ont réussi à se mettre d'accord dans cette résolution de 63, ils ont pu, du coup, entamer les négociations pour le traité.
Quand vous dites qu'ils se sont mis d'accord, il faut comprendre les États-Unis et l'URSS, sur quoi se sont-ils mis d'accord?
Alors, les États-Unis, en effet, vous avez raison de le préciser, c'est, il est vrai que dans ces négociations qui ont eu lieu à la fin des années 50, début toutes les années 60, les deux leaders de ces négociations ont été les États-Unis et l'Union soviétique, parce qu'ils étaient à l'époque les deux grands acteurs spatiaux et quasiment les seuls acteurs spatiaux à ce moment-là. Et ils se sont entendus sur un certain nombre de points très importants qui aujourd'hui en effet structurent, de grands principes qui structurent aujourd'hui les activités spatiales des États. Particulièrement, ils se sont entendus sur le principe de liberté. Alors c'est un très grand principe, ce principe de liberté. Le principe de liberté est un principe qui se décline...
Quand vous dites liberté, c'est liberté d'accès?
Alors, pas du tout.
Pas du tout.
Ce n'est pas la liberté d'accès. Il y a trois libertés qui sont mentionnées dans les traités, dans le traité de 67 et auparavant dans la résolution de 63. C'est la liberté d'explorer, la liberté d'utiliser et la liberté de la recherche scientifique. Donc trois libertés ont été reconnues par les deux grands États et bien sûr ils ont entraîné derrière eux les autres États qui du monde dans les négociations sur le traité. Donc trois libertés principales et qui fondent aujourd'hui finalement tout le cadre de la régulation des activités spatiales. Vous mentionnez la liberté de l'accès, elle n'a pas été inscrite dans les traités. Pour une raison très simple, c'est que à l'époque et toujours aujourd'hui d'ailleurs, liberté d'accès, cela aurait signifié d'entraîner les États sur des négociations relatives à l'espace non plus spatial, non plus extra-atmosphérique, mais l'espace aérien. Parce que dans notre technologie actuelle, compte tenu du fait que la téléportation n'existe pas encore, n'est-ce pas, pour aller d'un point terrestre jusqu'à une orbite, il faut traverser une couche aérienne. Or, parler de les libertés d'accès, ça aurait voulu dire qu'on acceptait l'idée d'une liberté de passage des objets dans les espaces aériens. Or, l'espace aérien a un statut qui est totalement différent de l'espace extra-atmosphérique. C'est un espace qui est soumis à la souveraineté absolue, exclusive des États. Donc, c'était un sujet beaucoup trop sensible. Et les États, de manière très, très adroite, l'ont simplement écarté et n'en parlent pas.
Je vais vous passer la parole, Paul Vorer, mais je voudrais continuer un tout petit instant avec vous, Mireille Couston, parce que vous parlez de liberté. On entend effectivement ce qu'il y a derrière, mais il y a quelque chose que je n'ai pas entendu et qui pourtant, j'imagine, est absolument central à ce moment-là, c'est la question nucléaire. Est-ce qu'il y a des choses qui sont précisées? On est en pleine guerre froide. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour éviter que justement cet espace extra-atmosphérique ne devienne le théâtre d'une nucléarisation?
Oui, oui, absolument.
C'est important.
C'est très important. C'est très important, bien que ça soit, je dirais, un petit peu symbolique aussi sur un plan pratique. C'est important. Les États, dans le traité de 1967, à l'article 4 précisément, se sont entendus, en effet, pour s'interdire mutuellement de mettre en orbite terrestre et d'installer en orbite terrestre des armes dites nucléaires ou encore des armes dites de destruction massive, ce qui revient à, par exemple, les armes chimiques ou bactériologiques. Alors, c'est une interdiction mutuelle qu'ils se sont dans lesquelles ils se sont engagés, mais je dirais que c'est un peu un engagement facile, en définitive. C'est un peu un engagement facile parce que on vient, Monsieur Vorer le disait tout à l'heure, dans l'espace extra-atmosphérique, en orbite, il n'y a pas besoin d'une arme considérable pour aller endommager un autre objet. Il n'y a pas besoin d'une arme nucléaire pour détruire toute une série de satellites. Il suffit d'un boulon. Donc le désengagement nucléaire et de destruction massive dans les orbites, je dirais que ça a été cela a rassuré tout le monde parce qu'on avait la peur de la troisième guerre mondiale dans l'espace, mais sur un plan pratique, ça n'emporte pas grand-chose. Sincèrement, ça n'emporte pas grand-chose. Hein. Je ne sais pas ce que M. Vorer en pense.
C'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que le traité, tous ces grands principes ont été assez finalement, tout le monde s'accordait sur ces grands principes, notamment parce que placer une arme nucléaire dans l'espace n'avait pas un grand sens d'un point de vue militaire, même s'il y avait des études qui ont été menées pour déterminer à l'époque si ça pourrait avoir du sens d'avoir des armes orbitales. On s'est rendu compte que justement, elles étaient très fragiles, précisément, comme on a parlé des armes anti-satellites. Une arme nucléaire dans l'espace, c'est comme un satellite. Ça n'avait pas particulièrement d'intérêt militaire. Et le traité de l'espace a été mis en place très rapidement, précisément parce que ces grands principes ne faisaient, faisaient l'unanimité, ne faisaient pas débat. Et le traité de l'espace a été aussi le préalable, le fait qu'on pouvait se mettre d'accord sur des règles communes pour gérer certains espaces, pour ensuite
sur des compromis, je crois que c'est
voilà, sur des compromis qui ont ensuite mené à d'autres traités.
Sur la question de l'appropriation, vous m'avez repris tout à l'heure le principe de non-appropriation nationale. Que dit ce premier traité de 1967 sur la question de l'appropriation possible des ressources? Mireille Couston.
Oui, alors effectivement, je vous ai repris sur le terme, puisque dans l'article 2 du traité de 1967 est très clair là-dessus, c'est la non-appropriation nationale, n'est-ce pas? Et donc, ce qui fait quand même une grande différence dans la mesure où ce qualificatif de national que les États ont de façon très intelligente ajouté à l'idée de non-appropriation amène forcément à des interprétations de la part des uns et des autres, et des interprétations qui sont divergentes. Donc c'est une sorte de marge de manœuvre.
C'est-à-dire, préciser les choses. Comment on interprète côté américain, comment on interprète du côté soviétique?
Là, vous êtes un peu réducteur. C'est pas côté américain et côté soviétique. Ça serait plutôt côté d'une école prohibitive absolument sur l'appropriation de l'espace et des corps célestes, et puis une école un peu plus libérale. Mais vous en trouvez de part et d'autre, c'est-à-dire aussi bien à l'est qu'à l'ouest.
J'imagine que l'école libérale est plus présente aux États-Unis. Qu'en URSS.
Elle l'était à l'époque peut-être un peu plus présente aux États-Unis, mais néanmoins, si ce principe de non-appropriation nationale a été élaboré et réfléchi entre les deux grands de façon très intelligente, c'est parce que ils ne voulaient pas que ni l'un ni l'autre ne puissent s'engager dans une véritable conquête territoriale. Donc, quand la préoccupation américano-soviétique de l'époque, c'était une préoccupation d'éviter que l'ennemi, puisqu'à l'époque ils étaient ennemis, que l'ennemi ne s'ouvre de nouveaux territoires, ne conquiert de nouveaux territoires et n'agrandisse ainsi sa souveraineté. Donc, dans les deux cas, toute façon, aussi bien l'un que l'autre, ils étaient en faveur, finalement, de cette non-appropriation nationale.
Je vais préciser un peu les choses, Mireille Couston, et puis ensuite on va venir à la question militaire. Mais ce que j'entends par là, est-ce que derrière l'école libérale américaine, l'idée d'une non-appropriation nationale, il y a aussi la perspective, l'ambition peut-être, de permettre à terme à des entreprises privées d'accéder à des ressources et à les exploiter. Est-ce que déjà, c'est dans les esprits?
Naturellement. C'est déjà dans les esprits. Naturellement, c'est déjà dans les esprits. Et on peut noter à cet égard que là aussi, il y a eu un compromis entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il faut rappeler que l'Union soviétique, à l'époque, voulait le monopole étatique dans l'espace extra-atmosphérique. Elle ne voulait pas, donc elle disait que toutes les activités spatiales doivent être monopolisées par les États. Donc les Américains ont obtenu un compromis dans lequel on dit que les entités privées sont autorisées. Mais elles n'ont pas une liberté première. Hein. Il faut faire attention à cela quand on parlait du principe de liberté. Ça n'est pas une liberté première. C'est une liberté dérivée qui vient de leur État, n'est-ce pas?
Paul Verhaer, étonnant de voir que les Américains, finalement, dès le départ, ont cette idée que, oui, il y a un moment où les acteurs privés débarqueront.
Il faut se remettre dans le contexte de l'époque aussi. Effectivement, ça n'est pas la préoccupation principale au moment où le traité de l'espace est signé. Et Madame Cousteau m'arrêtera si je me trompe.
Mais on construit une porte. On construit une porte dans le droit.
Oui, on est en train de construire une porte dans le droit. Déjà parce que dans la mentalité américaine, l'idée de nouvelles frontières, de frontières de l'Ouest finalement, l'Ouest a été ouvert par les entrepreneurs. Dans la pensée américaine, puisque c'est pas exactement ça dans la réalité historique, mais cette idée de l'entrepreneur, cette idée libérale, que finalement des nouveaux territoires sont conquis, exploités et finalement qui font fructifier une société, elle est très profondément ancrée dans la mentalité américaine. Et d'ailleurs, les lois nationales qui ont suivi, et je pense qu'on va parler peut-être du Space Act de 2015.
On va en parler dans un instant, vous inquiétez pas, on va y venir.
Sont des manifestations très concrètes.
Avant de parler du Space Act, à la fin des années 80, alors il y a d'autres textes, d'autres grands traités qui vont suivre ce grand traité de 67. Alors je vais les citer quand même. Il y a d'abord l'accord sur le sauvetage des astronautes qui entre en vigueur en avril 68. Et il y a ensuite la convention sur la responsabilité internationale causée par les dommages spatiaux de mars 72 qui, elle, est très importante. On a la convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace janvier 75. Et puis enfin, on a un dernier accord à la fin des années 70, entre 79 exactement, mais qui entre en vigueur un peu plus tard, en 84, qui est sur les activités des États sur la Lune et autres corps célestes. Un mot à dire sur ces quatre autres grands traités avant de venir à la question de la militarisation ?
Oui, le premier traité de 67 était un traité cadre, c'est-à-dire qui posait des grands principes, et les autres qui ont suivi ont été des traités dits d'application, c'est-à-dire qu'ils ont développé chacun dans leur domaine de spécialité de façon plus précise, alors la responsabilité, l'immatriculation. Le traité de 79, le dernier que vous avez cité, est un traité un peu à part, puisque c'est un traité qui est certes entré en vigueur, mais qui n'a jamais été signé ni ratifié par aucun État spatial. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a 18 États qui sont participants à ce traité, donc ce qui lui enlève toute valeur effective.
Paul Verhaer, on arrive dans les années 80, l'URSS est encore là, bon, la guerre froide est encore un peu là quand même, et vous dites que déjà, dès les années 80, bien qu'on soit encore dans une logique bipolaire, eh bien on va avoir des éléments de contexte qui vont faire qu'on va repenser un peu la manière dont on appréhende l'espace, et justement on va voir le début d'une montée en puissance à ce moment-là de la militarisation. Pourquoi à ce moment-là ? C'est ce que j'ai lu dans un papier, je crois, enfin vous me dites si je trahis votre pensée, mais pourquoi à ce moment-là, pourquoi au fond, avant même l'effondrement de ce monde bipolaire, on a cette montée en puissance de la bipolarisation ? Qu'est-ce qui change dans le contexte ?
On a deux choses. Je pense que vous faites référence aussi au projet de l'initiative de défense stratégique de Ronald Reagan. Donc ça, c'était un grand projet qui était mené à la fois pour justement développer des capacités antiballistiques très importantes et notamment basées sur des ressources spatiales, des satellites qui iraient voir les missiles et potentiellement les détruire, et qui avait aussi pour objectif d'assécher les ressources de l'Union soviétique et de relancer une course aux armements qui va finir par épuiser l'Union soviétique et mener à sa chute. En revanche, la militarisation de l'espace dont on parlait jusque-là, elle est présente depuis la fin des années 50 justement. Et les satellites, à l'époque, sont très liés au secteur nucléaire, finalement, puisque à la fois les fusées servent à la fois à envoyer des satellites et également des ogives nucléaires. Mais les satellites d'observation vont être utilisés comme facteur de stabilisation à cette époque, et notamment pour vérifier l'application des traités de limitation des armements, en particulier les accords, les traités SALT. Et donc, à cette époque, s'attaquer à des satellites signifierait rompre cet équilibre qui existait au niveau nucléaire entre les deux grands. C'est pour ça qu'on certains auteurs ont pu parler d'espace sanctuarisé, c'est-à-dire que s'attaquer à des satellites, c'était réellement commencer une escalade qui pourrait mener à la perte de tout le monde. Et à partir, disons, des années 80, voire début des années 90, ce qui se passe, c'est que les satellites sont utilisés également par les armées de manière conventionnelle. On a l'apparition du GPS à cette époque. On a l'apparition du renseignement beaucoup plus tactique, des télécommunications satellitaires sur le terrain. Et donc, ces satellites deviennent non plus des instruments uniquement de niveau politique et stratégique, mais redescendent d'une certaine façon plus près du champ de bataille. Et c'est la guerre du Golfe en 1991 qui montrera les premiers effets les plus impressionnants, notamment des armements guidés par GPS, des armes conventionnelles guidées par GPS qui vont faire réellement basculer la manière de mener la guerre.
Alors, après cette petite perspective historique, revenons-en au temps présent. Mars 2018, Donald Trump annonce la possibilité de créer une Space Force qui deviendrait un sixième corps après l'Army, la Navy, l'Air Force, les Marines et la Coast Guard. Et il se trouve qu'il y a quelques semaines, c'était en février dernier, eh bien, Donald Trump a mis dans les tuyaux un projet de loi pour justement faire apparaître cette nouvelle Space Force.
Today, I'm thrilled to sign a new order.
Aujourd'hui, je suis ravi de vous annoncer un nouveau projet de loi en créant la Force spatiale américaine. Et ce sera une grande partie des activités défensives et même offensives de notre pays. Mais restons gentils et parlons de la défense de notre pays. Les actions d'aujourd'hui assureront la sécurité de nos concitoyens, la protection de nos intérêts et que notre pouvoir demeure inégalé. Personne ne pourra nous égaler.
That can come close to matching us. Bon, un ton assez martial hein, dans l'annonce de Donald Trump. C'était le 19 février dernier. On va commencer avec vous, Paul Vorer, et puis je vous ferai réagir, évidemment, Mireille Couston. Que vous inspire tout simplement la mise en place de cette nouvelle Space Force ? Le département d'État est-il inquiet à ce point qu'il a besoin effectivement de revoir tout ça pour garantir la sécurité, et notamment la sécurité, j'imagine, de ses satellites ? Et qu'est-ce qu'elle va changer de cette nouvelle organisation ?
On ne sait pas actuellement ce qu'elle va véritablement changer. Si on, alors, je vais peut-être faire juste une perspective historique. Depuis 2017, il y a un effort qui a été mené au Congrès américain par deux sénateurs pour justement mettre en place ce qu'ils appelaient à l'époque un Space Corps, c'est-à-dire un corps comparable au corps des Marines, subordonné à l'Air Force, mais disposant d'une certaine autonomie dans ses décisions et dans son organisation pour penser l'espace, pour créer une stratégie spatiale. Donald Trump s'est emparé de cette idée pour en faire une ce qu'il appelle la Space Force, qui donc serait considérée comme une nouvelle branche des forces armées, complètement autonome de toutes les autres. Est censé mener des actions dans l'espace, capable de s'orienter dans l'espace et de considérer l'espace comme un domaine militaire. Pour l'instant, ça n'est pas cette vision-là n'est pas ce vers quoi on s'oriente, puisque finalement toutes les décisions qui ont été prises dernièrement. En août 2018, on a eu un plan de la Space Force qui comporterait une Space Development Agency, une force d'opération spatiale, la remise en place de l'US Space Command qui avait disparu depuis 2002. Mais on garde l'espace quand même sous le giron de l'Air Force, avec une autonomie de plus en plus grande, mais pas encore complète. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas exactement vers quoi va aller la Space Force. Et il faut noter aussi que la Space Force a été, pour le président des États-Unis, l'occasion de faire une démonstration de force politique.
Mireille Couston, que vous inspire la mise en place peut-être de cette Space Force, même si on l'entend, Paul Vérin nous le dit, on ne sait pas exactement finalement vers quoi on se dirige, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'on est là en train de vivre peut-être une rupture dans la manière dont les États-Unis appréhendent le spatial et en particulier la place qu'ils confèrent à l'appareil militaire ?
Je pense que la rupture, elle n'est pas uniquement aux États-Unis. Et puis parler de rupture, ça me paraît un petit peu fort. À mon avis, c'est une évolution. Il y a une sorte de continuité tout de même dans les doctrines stratégiques sur ces questions. Et la France, il y a eu un rapport français, un rapport parlementaire français, où finalement l'attitude est à peu près la même. C'est-à-dire, il faut se donner les moyens de se défendre. Et d'ailleurs, là, le président Trump le dit bien. Il parle d'aspect défensif. Et cela, il faut comprendre que le droit international permet, il faut se le rappeler, la légitime défense. On ne peut plus faire de guerre d'agression. L'agression est effectivement un péché auquel il ne faut plus se livrer. Mais en revanche, il est parfaitement possible de poursuivre des guerres lorsque ce sont des guerres de légitime défense. Et ça me finalement, c'est une évolution qui semble à peu près normale que les moyens de légitime défense bien soient au niveau terrestre, maritime, aérien et au niveau spatial.
S'il y a légitime défense, ça veut dire aussi peut-être qu'il y a attaque. Je vous propose d'écouter Florence Parly, c'était il y a quelque temps, à propos d'un satellite français qui peut-être aurait fait l'objet d'un espionnage. Écoutez.
Alors qu'Athéna Fidus continuait sa rotation tranquillement au-dessus de la Terre, un satellite s'est approché de lui, de tellement près qu'on aurait vraiment pu croire qu'il tentait de capter nos communications. Tenter d'écouter ses voisins, ce n'est pas seulement inamical. Cela s'appelle un acte d'espionnage. Et ce satellite aux grandes oreilles s'appelle Louche Olympe. C'est un satellite russe, bien connu, mais un peu indiscret.
Voilà, la ministre française des Armées qui nous raconte une histoire comme si elle nous racontait un conte, un petit peu, sauf que ce conte, il est bien réel, il a bien eu lieu. Mireille Couston, qu'est-ce que ça vous inspire? Et je repose la question, vous disiez légitime défense, peut-être que ça veut dire qu'à côté de cela, il y a quelque chose qui ressemble à de l'attaque dans l'espace extra-atmosphérique, et est-ce que, au hasard, la Russie, puisque c'est la Russie que mentionne notre ministre de la Défense, ferait partie de ces puissances qui, aujourd'hui, sont en train de développer peut-être des capacités satellitaires destinées, pourquoi pas, à faire de l'offensive sur d'autres satellites. On parlait tout à l'heure de destruction de satellites indiens, mais là, c'est l'Inde qui détruit son propre satellite. Est-ce qu'on a là quelque chose qui ressemble à l'émergence de puissances satellitaires destinées à s'attaquer à d'autres satellites? Ou est-ce que je suis complètement dans le délire? Là, Eric Couston.
Oui. Alors, peut-être il faut. Je comprends bien la réaction de Madame la Ministre. Néanmoins, il faut quand même n'être pas trop naïf. L'espionnage est quelque chose qui est parfaitement courant entre les États et faire semblant de découvrir que la Russie ou les États-Unis ont des satellites espions et qu'ils cherchent à écouter, bon, je pense qu'on peut quand même aller au-delà. Il est clair et il est certain que tout le monde s'espionne dans l'espace. Et tout le monde s'espionne sur Terre également.
Oui, mais donc, on savait qu'on utilisait des satellites pour espionner, effectivement, mais sur Terre, mais pas entre satellites.
Si. Bien, bien sûr que si.
Ah ben voilà, je suis naïf.
Alors, après, la question de la légitime défense, vous savez, Clémenceau disait qu'un État qui veut faire la guerre se dit toujours en état de légitime défense. C'est très facile de trouver un moyen de... comment dire, un prétexte à la légitime défense. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait une agression caractérisée, puisque aujourd'hui, on a même la doctrine qui s'est développée de la légitime défense préventive.
Oui, ce qui est quelque chose quand même.
Et même de la légitime défense préemptive. Voilà, la légitime défense peut servir à beaucoup de choses et c'est aujourd'hui un des arguments principaux, en effet, pour mettre en place dans l'espace alors des systèmes tels que des systèmes anti-satellites pour en effet préserver préserver d'autres systèmes. Vous savez, il y a aussi le grand principe. On parlait du principe de liberté. Le principe de liberté est également un argument pour l'arsenalisation de l'espace extra-atmosphérique, des orbites terrestres, parce que on retrouve dans les doctrines actuelles, que ce soit les doctrines américaines, mais aussi les autres d'ailleurs, pas uniquement les américains, faut pas toujours tout leur mettre dessus, on retrouve l'idée que à partir du moment où on a un grand principe comme le principe de liberté, celui-ci doit être défendu. Mmh. Et défendu par tous les moyens.
Paul Vorer.
Oui, effectivement, l'espionnage est, disons, une pratique assez répandue à la fois dans l'espace et sur Terre, même entre des États qui ne sont pas en guerre les uns contre les autres. En revanche, pour ce qui est difficile dans l'espace, c'est d'attribuer véritablement les actes. C'est quelque chose qui avait été noté dans la revue stratégique de défense et de sécurité nationale de 2017, c'est que détecter ce type de comportement et voire même détecter les satellites eux-mêmes, c'est quelque chose qui est très difficile. Et on parlait tout à l'heure d'attaques contre des satellites. Alors en l'occurrence, on parlait d'attaques cinétiques. Il y a plusieurs moyens de détruire des satellites. On peut penser au piratage ou plus généralement à des attaques électromagnétiques.
Quand vous dites attaque cinétique, c'est un satellite qui rentre dans un autre satellite, tout simplement. En fait.
Satellite qui rentre dans un autre satellite ou un missile qui rentre dans un satellite tiré depuis la Terre ou depuis l'espace. C'est une attaque physique, voilà. Et c'est quelque chose qui crée des débris et donc qui est quelque chose qui est très mal considéré. En revanche, certaines attaques peuvent ne pas endommager les satellites. Certaines attaques peuvent même désorienter des satellites. Tout ce qui touche à la guerre électronique, par exemple, est quelque chose qui est très difficilement attribuable. Et cette question de l'attribution est clé, finalement. C'est pour ça aussi qu'on surveille l'espace et que le ministère des Armées souhaite se doter de nouveaux moyens de surveillance de l'espace.
Alors, quelles règles de droit appliquer en cas de guerre dans un domaine aussi spécifique que l'espace, alors que des manuels de droit international en cas de conflit existent déjà dans le domaine du maritime, le manuel de Sanremo, de l'aérien, manuel de Harvard, du cyber, manuel de Tallinn, rien n'existe encore pour le domaine spatial. Une équipe de chercheurs issus des universités d'Adélaïde et de New South Wales en Australie, d'Exeter au Royaume-Uni, mais aussi du Nebraska aux États-Unis, ont décidé de s'atteler à la rédaction de ce guide qui se présente comme un outil pour réduire les risques de conflit. Son nom, le manuel Woomera, sa finalisation est prévue pour l'année prochaine, 2020. On a demandé au juriste australien Duncan Blake, membre du projet, de nous expliquer à qui s'adresse ce manuel, quels sont ses objectifs. Il est au micro de Mélanie Chalandon. Duncan Blake.
Le manuel s'adresse avant tout aux opérationnels ou aux décideurs, ceux qui seraient appelés à décider des actions et des réactions à adopter dans l'espace si leur capacité spatiale était perturbée. Si quelqu'un venait à entraver les capacités spatiales, comment réagir ? Ce manuel s'adresse également aux observateurs. Les journalistes pourraient se servir de ce manuel pour comprendre le régime applicable en cas de conflit. L'objectif est en fait de clarifier l'application du droit des conflits et du droit international à l'utilisation de la force dans l'espace. Et j'emploie le terme « clarifier » à dessein et avec la plus grande prudence. En premier lieu, il ne s'agit pas ici de créer un droit nouveau. Nous ne faisons que reconnaître un droit qui existe déjà. La manière dont il s'applique à l'espace n'est en revanche pas claire. Et c'est ce que nous voulons faire, la rendre plus claire. La raison pour laquelle ce n'est pas clair, c'est en partie parce que vous avez d'un côté un droit international de l'espace qui est généralement très positif, qui parle de choses comme la station spatiale internationale et l'exploration spatiale, ce qui est fantastique. Et puis, vous avez d'un autre côté un ensemble de lois radicalement différentes et issues d'un contexte radicalement différent, comme la Convention de Genève, le droit des conflits armés, les prisonniers de guerre ou encore ce qui constitue une cible légitime et ce qui ne constitue pas une cible légitime. Ces ensembles de lois ont donc été élaborés dans des contextes très différents, et il n'y a donc pas eu vraiment de réflexion commune sur la manière dont ces deux ensembles de lois peuvent coexister.
Vous employez beaucoup le terme de clarification. Est-ce qu'il faut en déduire, Duncan Blake, que le droit international n'est pas clair, en tout cas pas assez clair à vos yeux ?
Absolutely. Tout à fait, absolument. Par exemple, le traité de l'espace emploie des termes très vagues du type « Tous les États partis au traité utiliseront la Lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques ». Le mot « paix » ne revêt pas forcément la même signification pour tout le monde. Et le mot « paix », ou plutôt l'expression « à des fins pacifiques », manque cruellement de clarté. Et pour clarifier l'article 4 du traité de l'espace qui parle d'utiliser la Lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques, nous devons savoir ce que cela signifie. Ainsi, si une société commerciale se lançait dans l'exploration de ressources spatiales, par exemple une exploration minière sur la Lune ou en cherchant à extraire de l'eau sur la Lune, quel serait le régime juridique applicable si plus d'une société commerciale décide de faire la même chose au même endroit et qu'un litige survient entre elles ? Litige qui pourrait impliquer l'usage de la force. Et si l'une des sociétés décide alors qu'elle a besoin de protéger ses activités sur la Lune, le traité de l'espace interdit-il le recours à une force de protection ? Et quelles seraient les règles applicables à cette force de protection si elle était employée ?
Êtes-vous certain qu'un manuel qui aura été rédigé par des chercheurs du Canada, des États-Unis, de l'Australie et du Royaume-Uni pourra vraiment être reconnu et utilisé par tous les pays de la planète ? Autrement dit, est-ce que la Chine ou bien la Russie ne risque pas d'être un petit peu méfiante envers ce manuel ?
Alors, nous avons un expert chinois qui participe à la rédaction du manuel et nous avons également des pairs évaluateurs du monde entier qui se penchent sur les règles. Et une fois que nous aurons un avant-projet de manuel définitif, nous entamerons un processus de mobilisation des États. Nous inviterons les gouvernements à assister à une réunion et nous leur montrerons un avant-projet complet en leur disant « Voilà ce qu'est le droit selon nous. Nous voulons avoir votre avis et savoir si vous êtes d'accord pour dire que cet énoncé de la règle de droit applicable est juste. » Et nous espérons qu'ils donneront des exemples de pratiques que nous ignorons jusque-là. Ils nous diront peut-être « Nous avons fait ci et ça ». Que ce soit la Russie, la Chine ou qui que ce soit, ils diront peut-être « Nous avons toujours procédé de telle manière pour telle activité ». Et cela donne une indication de ce qu'est le droit applicable. Nous leur répondrions « Merci beaucoup, ces informations nous sont précieuses et cela pèse sur notre perception de ce que doit être le droit. » Donc ces États participeront au processus et je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils se rallient à l'initiative. Mais au-delà de cela, peu importe de qui il s'agit, que ce soit les États-Unis, l'Australie, le Canada, la France, le Japon, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran ou Israël, il est de l'intérêt de tous d'utiliser l'espace conformément à un ordre stable et fondé sur le respect des règles. Les agissements de l'Inde, par exemple, et je pense que le gouvernement indien admettrait que j'ai raison sur ce point, la création de débris spatiaux a des conséquences pas seulement pour un État, pas seulement pour l'Inde, mais pour tous les États.
Alors, ce manuel, le manuel Woomera, est un projet universitaire, mais qui le finance au-delà des universités? Est-ce qu'il y a d'autres parties prenantes au projet?
Les fondateurs du projet de manuel Woomera sont les suivants. L'Université d'Exeter au Royaume-Uni, l'Université de Nouvelle-Galles du Sud à Canberra, en Australie, et l'Université d'Adélaïde en Australie également. En plus des représentants des universités, il y a également des personnes qui occupent des postes gouvernementaux officiels, mais qui ne participent pas en tant que représentants des gouvernements. Elles ne participent pas à titre officiel, et c'est important que ce ne soit pas le cas. Parce qu'à partir du moment où on se situe à un niveau international et que des États se regroupent pour exprimer une opinion sur le droit international, si les participants représentent leur gouvernement, cela devient de facto une négociation politique. Cela devient une tentative de la part des États de peser sur l'élaboration d'une législation qui irait dans le sens de leur intérêt. Il est donc important que les personnes qui participent au projet ne soient pas là au nom de leur gouvernement, mais en leur nom propre.
Dernière question, Duncan Blake. Le Woomera Manuel se présente comme un outil visant à réduire le risque de conflit dans l'espace. Est-ce que vous pensez que ça pourra vraiment être le cas à l'avenir?
Well, there's a saying that good fences make good neighbors.
Il y a un dicton qui dit que les bonnes clôtures font les bons voisins. Si chacun comprend clairement les règles, il y a plus de probabilité que personne ne dépasse les bornes. Et n'oublions pas que la communauté internationale ne dispose pas d'une police internationale. Et donc, en l'absence d'une police internationale, la stabilité de la communauté internationale implique que chaque État doit comprendre les règles. La stabilité de la communauté internationale implique que chaque État doit comprendre les règles et comprendre que s'il enfreint ces règles, les autres États peuvent leur faire payer les conséquences. Et si chacun comprend cela, alors il y aura moins de risques que des États enfreignent les règles, et s'ils le font malgré tout, il y aura plus de probabilité que le problème soit résolu en appliquant les règles et d'une manière conforme aux yeux de la communauté internationale, à l'ordre mondial accepté par tous.
Voilà, Duncan Blake, juriste à l'Université d'Adélaïde, un spécialiste de droit spatial et de droit militaire et membre de ce projet dans Woomera Manuel. Il était au micro de Mélanie Chalandon. Mireille Couston, que vous inspire ce manuel, une sorte de manuel de bonne conduite finalement? Est-ce que c'est une bonne idée, applicable?
Alors, d'abord, je trouve absolument méritoire de la part de Duncan de se lancer dans ce projet. C'est évidemment extrêmement intéressant.
Mais
néanmoins, voilà, vous avez cité un certain nombre de manuels, et c'est le nom qui est un peu gênant, on a l'impression que c'est la même chose pour ce qui se passe pour ce travail universitaire qui est en train de se faire en Australie. Mais attention tout de même à des différences très importantes. Vous parliez par exemple du manuel de San Remo. Le manuel de San Remo n'est pas un manuel universitaire. Ce sont des principes juridiques qui ont été établis par les États. Le manuel de Tallinn, là aussi, attention, c'est quelque chose qui a été établi par des experts commandités par les États de l'Alliance Atlantique. Là, le manuel de Oumera, on voit bien, c'est une étude universitaire qui tend à éclaircir, en effet, et à voir comment on pourrait appliquer finalement le droit de la guerre et le droit international à l'espace extra-atmosphérique. Mais vous voyez, les outils, il faut faire attention, les outils sont quand même très différents, et c'est pas parce que ça porte le nom de manuel, d'ailleurs un manuel, vous voyez, un manuel de droit, c'est un manuel à destination des étudiants, par exemple.
Donc, si je vous comprends bien, c'est louable, c'est une initiative louable, mais elle est destinée à rester dans les placards de l'université d'Adélaïde, d'ailleurs.
C'est une initiative très louable, néanmoins, il faut nuancer dans la mesure où les créateurs de droit, ce ne sont pas les juristes. Les créateurs du droit, ce sont les États. Donc, effectivement, si on leur propose quelque chose d'intéressant, peut-être que les États, à ce moment-là, iront dans le même sens.
Sauf que c'est pas le cas. Ça fait des années que les États sont incapables de se mettre d'accord sur un quelconque traité. Le dernier traité, on l'a dit, c'était au début des années 80. Encore, absolument, l'entrée en vigueur, en fait, c'est fin 70. Absolument. Depuis, rien. Et pourtant, il y en a eu des initiatives. Ça marche pas.
Oui, absolument. Là, il s'agirait peut-être pas de créer un traité, mais simplement pour les États d'avoir une interprétation, de dire qu'ils donnent leur interprétation, en effet, à telle et telle règle qui sont mises en exergue par ce manuel universitaire. Et à ce moment-là, on aurait une position étatique. Il n'y a que par la position étatique qu'on peut être sûr d'avoir une valeur juridique d'une règle. C'est uniquement que ça. Ce ne sont pas les universitaires ou les juristes praticiens qui peuvent dire le droit.
Et un nouvel accord international, vous semble, et ça sera ma dernière question, je vous demande une réponse courte s'il vous plaît, c'est la seule manière de contenir les velléités militaires extra-atmosphériques dont on parle depuis tout à l'heure?
Absolument pas. La Convention de Genève, par exemple, en matière de droit humanitaire, n'a jamais empêché les conflits de continuer. Je veux dire, un texte juridique, il est là lorsqu'on peut l'utiliser pour apporter un certain nombre de choses, mais pas du tout, il n'empêche rien. Le texte juridique n'empêche absolument rien. Satellite's gone up to the sky. But it's not as nice as looking in your eyes.
Beaucoup à nos deux invités, Paul Forer, je rappelle que vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Un grand merci à vous, Mireille Couston, de nous avoir éclairé sur ces sujets très délicats aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes professeur de droit international public à l'Université Lyon 3 et directrice du Centre du droit des espaces et des frontières. Auteur de deux ouvrages, notamment que j'ai sous les yeux, Droit spatial qui était paru chez Ellipse et Droit de la sécurité internationale paru chez Larcy. Un grand merci à vous.
Merci à vous.
Satellite de l'amour, Louride, évidemment, 11h53 minutes. On retrouvera évidemment demain, hein, on reprendra notre série consacrée à l'espace. Mais d'abord, c'est celui qui nous vient directement de l'espace, c'est Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors hier, on s'est quitté, nous avons quitté Marlène Dietrich plutôt dans le Berlin des années 20. Elle a renoncé à une carrière de violoniste classique pour se lancer dans le musical et le cinéma. Et c'est là qu'elle rencontre Steinberg.
Mais un mot d'abord sur cette époque fantastique. Les années 20 à Berlin forment une toile de fond fantastique en effet. Le pouvoir en place, appuyé sur la social-démocratie, le Zentrum catholique, les libéraux de gauche du DDP et les libéraux conservateurs du DVP, étaient pris en tenaille entre deux tendances révolutionnaires, l'une de gauche, les communistes, l'autre de droite, les nationalistes. Les communistes avaient tenté une révolution en 1919, les nationalistes un coup d'état militaire en 1920. Le pays était sous tutelle de ses vainqueurs après une perte territoriale de 70 000 km² et de quelques 7 millions de ses citoyens d'avant-guerre qui vivaient dorénavant en Tchécoslovaquie ou en Pologne. Pour aggraver encore la situation morale du pays, l'hyperinflation ravagea le pays en 1922-23. Les dettes de guerre devait être soldé, le dollar qui valait 420 marks en juillet 1922 grimpe à 49 000 marks en janvier 1933 et à plusieurs milliards de marks à la fin de 1923. La ruine des classes moyennes, de tous les épargnants, les soudaines fortunes accumulées par de jeunes spéculateurs créent un climat moral incroyable. Sébastien Hafner, dans Histoire d'un Allemand, appelle l'année 1923 l'année délirante. Les vieillards, écrit-il, et les rêveurs étaient les plus mal lotis. Beaucoup furent réduits à la mendicité, beaucoup acculés au suicide, les jeunes et les petits malins se portaient bien, la conjoncture affamait et punissait de mort les esprits lents et ceux qui se fiaient à leur expérience. Parmi tant de souffrances, de désespoir, de misère, brûlait une fièvre ardente et juvénile. La concupiscence régnait dans une ambiance de carnaval généralisé. Voici que d'un seul coup, l'argent se trouvait aux mains des jeunes et non des plus vieux. Comme l'argent ne conservait sa valeur que durant quelques heures, on le dépensait comme jamais et pour des choses que les vieilles gens n'achètent pas. Ce fut une véritable explosion de bars et de boîtes de nuit. L'amour, l'amour jouisseur et hâtif, était la grande affaire de tous. Témoignage du jeune Klaus Mann. La civilisation avec laquelle nous faisions connaissance dans les années 20 semblait privée d'équilibre, privée de but, privée de volonté de vivre, mûre pour la ruine, prête à la chute. Nous ne pouvions nous écarter d'une norme morale quelconque, il n'y avait plus aucune norme de cet espace, de cette espèce. Les clichés moraux de l'ère bourgeoise avaient pendant les années de guerre et de révolution perdu de leur autorité. Cette moralité puritaine et bourgeoise nous semblait radicalement liquidée. Alors il est vrai que, comme l'écrit Jean-Paul Bled dans sa biographie de Marlène Dietrich qui vient de paraître, en 1924, le climat politique tend à s'apaiser. Mais voilà le cadre dans lequel se déroulent les débuts de Marlène. Mariée à un bel âtre, Rudolf Sieber, elle a accepté le ménage à trois avec la maîtresse de son époux. Tamara Matoul, une danseuse, passe dans leur immeuble pour la gouvernante de leur fille, Maria, mais pour ménager les apparences, si la nuit Rudy partage le lit de Tamara, au matin Marlène exige que Rudy rejoigne le lit conjugal afin d'y accueillir leur petite fille. De son côté, Marlène est initiée à l'amour lesbien par Claire Waldoff, qui lui donne des cours de chant. Les deux amies apparaissent volontiers vêtues de smoking noir dans les cabarets à la mode et Marlène enchaîne les petits rôles au cinéma entre 23 et 29.
29, justement, Brice, l'année où Marlène Dietrich fait la rencontre qui va bouleverser sa vie, celle avec Joseph von Sternberg.
Oui, Sternberg qui va s'intituler son découvreur, son Pygmalion, son inventeur. À l'époque, Sternberg, qui n'est pas plus fun que vous et moi, c'est un dandy juif né en Autriche et émigré aux États-Unis est déjà une importante personnalité à Hollywood. Il a été envoyé par la Paramount, avec laquelle il est sous contrat à Berlin, pour coproduire un film avec la compagnie allemande UFA, dont ce devait être d'ailleurs le premier film parlant. Et il a choisi d'adapter à l'écran un roman de Heinrich Mann, Professeur Unrat. Une histoire de digne professeur de lycée qui, ayant entendu dire que ses élèves s'encanaillaient dans un bar à matelots, s'y rend afin de les surprendre. Mais il tombe amoureux de la chanteuse qui en est la vedette et il devient sa chose, son clown. Le rôle du professeur est déjà dévolu à Emil Jannings, une très grosse vedette de l'époque, mais Sternberg cherche ça à Lola Lola. Et lorsqu'il auditionne Marlène Dietrich, celle-ci lui dit qu'il fait fausse route, qu'elle n'est pas du tout faite pour le rôle. Et c'est précisément le culot de Marlène, sa désinvolture sublime, qui le convainc qu'il tient là la comédienne qu'il cherchait. Son rôle de femme fatale dans L'Ange Bleu va fixer pour toujours le personnage de Marlène, un personnage qu'elle va incarner à l'écran comme à la scène pendant près d'un demi-siècle. Mais Sternberg commence par la métamorphoser complètement et elle, qui a l'habitude de mener la danse en général, se laisse entièrement réinventer par son Pygmalion qui est devenu aussi son amant.
Falling in love again, never wanted to. What am I to do? I can't help it.
Merci Brice.
Oui, elle y peut rien. Vous voyez, c'est comme ça. I can't help it.
Merci beaucoup Brice pour cette chronique qu'on peut bien sûr retrouver sur le site de France Culture.